9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran, qui couvre un petit rhume. Hein, Maître Serran. Oh là là,
ouais,
hein, même un gros rhume.
Hein. Ouais, non, petit.
Faut vous couvrir, Maître Serran.
J'aime bien me balader torse nu, quand je sors de chez moi dès le matin.
Oui, ça. Ouais. Bon. Alors c'est peut-être pas la bonne idée, Maître Serran.
Je sais bien.
C'est-à-dire qu'à partir, on va dire qu'à partir du 15 octobre...
Faut éviter. C'est vrai.
Hein.
Ouais. Bon. Et je vous dis pas ce qui se passe en été, mais...
Non,
je le dis pas.
Vous nous direz cet été.
Par exemple.
Très bien. Alors, en attendant, il y a Ishraq qui nous appelle de Lyon. Ishraq, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Ishraq.
Je vous appelle... Oui, une cousine à moi, elle m'a dit qu'on pourra parler avec un avocat.
Eh ben, l'avocat vous écoute.
Eh ben, là, j'ai réussi... Je suis une étudiante dans une université de Lyon.
Oui.
Et je suis algérienne de... Enfin, je suis de nationalité algérienne.
Une grande qualité. Voilà, et c'est mon côté nationaliste hein, qui... voilà. Bah, allez-y, excusez-moi.
Et je suis venue à l'âge de 17 ans ici en France.
Ouais.
Avec une visa touristique.
Mmh. Et là, vous avez quel âge?
Là, bientôt, je vais avoir mes 22.
D'accord. Donc, c'est un visa touristique très long. Vous êtes maru après le visa, on va être clair.
Ah, il a été craqué, le visa. Voilà.
Ouais, c'est bon, le visa, il était dû.
Oui, ouais, je l'imagine.
90.
D'accord.
Enfin, 90 jours. Et du coup, là, j'avais des problèmes familiaux. Du coup, j'ai réussi à intégrer dans un lycée.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait mon bac S et là, je suis à la fac. J'ai fait un dossier à la préfecture. Mmh. Le 21 novembre, j'ai reçu un rejeté.
Ouais.
Sur mon dossier. C'était vie familiale et privée.
D'accord. Donc là, vous l'avez reçu quand? Ça vous a été notifié quand?
J'ai reçu chez moi, c'était le 23 novembre.
D'accord. Bon, ben donc, j'imagine que vous avez lu ce qui vous restait à faire, c'est-à-dire, par définition, à contester.
Ça me demande un recours.
Ouais. Ouais, il y a un recours. Alors, soit vous faites un recours gracieux, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites au préfet, écoutez, réexaminez ma situation, mais sincèrement, la probabilité pour que les autorités préfectorales reviennent sur leur décision, elle est infinitésimale. Il n'y a rien qui vous interdirait de faire un recours hiérarchique, c'est-à-dire en vous adressant au patron du préfet, au ministre. Là aussi, bon, moi, je suis pas friand de ce type de recours. Le seul est vrai, entre guillemets, recours, selon moi, mais ça n'engage que moi, c'est le recours contentieux, c'est-à-dire saisir le tribunal administratif et puis mettre en avant tous les arguments que vous pourrez apporter. Mais là, on vous dit quoi précisément? Est-ce qu'on répond sur votre activité étudiantine ou pas? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ben, il me dit qu'il y a un rejeté sur votre dossier, il n'y a pas un QTF.
Alors ça d'accord, mais normalement il doit y avoir une ou deux lignes de motivation, c'est-à-dire qu'on vous dit écoutez, votre situation c'est ça, vous nous avez demandé ça, on veut pas parce que, et donc retourner au pays. Là le motif, la raison qu'ils invoquent, qu'est-ce qu'on vous dit?
On peut pas parce que vous n'avez pas un lien familial, et du coup moi j'avais bien écrit que, enfin ici en France, sachant que j'ai ma sœur ici, et j'avais bien écrit que quand je suis venue de là-bas, il y avait j'avais des problèmes qui m'empêchent que je puisse faire mes études là-bas.
Ouais, mais alors, d'abord il y a un préalable en la matière, c'est toujours difficile d'essayer d'être régularisé quand on arrive avec tel ou tel type de visa. Je viens en qualité de touriste, donc normalement. À l'expiration, en tout cas avant l'expiration de mon visa, je retourne au pays. Alors il n'y a rien qui interdit hein, de changer de statut juridique. Enfin voilà, quelqu'un qui se marierait, s'il y a des enfants, éventuellement demander un statut d'étudiant, mais ça devient déjà un peu plus difficile. La France a l'impression que vous l'avez trahi. Je suis la France, je vous donne un visa en qualité de touriste. C'est pas pour que demain on me dise bah écoutez je suis ici bah je vais rester pour des études ou je vais me marier ou je vais avoir des enfants. Donc
ah oui mais voilà, je suis tout à fait d'accord, mais le problème que j'avais là-bas que je pouvais pas faire mes études Et moi, je voyais loin que je puisse. Enfin, je voyais que j'ai la capacité de faire.
J'entends bien. Et d'ailleurs, de votre parcours et de votre de votre bac, je comprends que voilà, vous avez les capacités pour. Pour autant, vous voyez, si cette argumentation avait été donnée auprès des autorités préfectorales, mais je suis pas fou, ils vous auraient refusé en disant, écoutez, j'ai des capacités, je vais aller faire des études en France, entre guillemets, voilà, on est sur un plan d'égalité, vous me dites la vérité, après j'accepte ou j'accepte pas, mais votre argument, je le comprends, mais il est pas audible pour l'administration. Bon, toujours est-il que de toute manière, on vous a invité à quitter le territoire, ils vous ont accordé 30 jours pour saisir le tribunal, j'imagine?
Non, 2 mois, ils m'ont pas demandé de quitter
d'accord.
le territoire.
Ah bon, alors écoutez, donc ils vous ont répondu sur quoi? Ils vous ont simplement dit on refuse le titre vie privée familiale.
Le premier article, c'était qu'on refuse le titre de la vie privée familiale.
Ah, excusez-moi, j'ai pas entendu, j'arrête pas de tousser là, pardon.
Je vous ai dit que le premier article, c'était qu'on refuse le titre de séjour familial.
Ouais.
Et le deuxième article, c'était que mon récépissé, il est plus, enfin, on pourra plus les suivre.
D'accord.
De ça.
Bon, l'aspect familial, alors je comprends bien, je crois que vous avez une sœur, c'est ce que vous m'avez dit?
Oui, c'est bien.
D'accord.
Ça.
Et le reste de la famille?
Le reste de la famille.
Son pays?
Oui.
Bon, le calcul, entre guillemets, des autorités préfectorales est assez simple. C'est-à-dire que, déjà, quand tous les membres de la famille sont au pays, c'est-à-dire on a souvent des clients qui sont tout seuls en Algérie, enfin au Maroc ou ailleurs, c'est pas simple en disant, attendez, la personne est seule et toute la famille est en France, autoriser la personne à résider sur le territoire français. Là, il est certain que si la grande majorité des membres de votre famille est au pays, madame, l'argumentation qui consiste à demander un titre vie privée familiale est difficile à soutenir. Vous voyez, le fait qu'il y ait un ou même deux membres de la famille sur le territoire français, ça n'équilibre pas la situation. On va considérer que vous avez plus de membres et donc plus d'intérêts en Algérie que sur le territoire français. Pour autant, rien vous interdit évidemment de contester, et puis il va falloir le faire. Là, au niveau des études, il se passe quoi? Vous êtes quoi, en quelle année?
Là, je suis en licence physique-chimie d'ingénieur.
D'accord. Au niveau de l'inscription à l'université, ils vous ont pas cherché des poules dans la tête? Il n'y a pas eu de difficulté?
Non, il n'y a pas de difficulté, parce que je suis passée par le Parcoursup.
D'accord. Bon, c'est tant mieux, parce que parfois, ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire et des tracasseries administratives. Bon, encore une fois, l'angle d'attaque sur l'aspect familial vous concernant me semble, moi, un peu tiré par les cheveux. Mais bon, vous les avez interpellés sur ce point-là, ils vous ont refusé, donc il faudrait quand même envisager de contester cette décision donc auprès du tribunal administratif.
D'accord. Parce que là, ici, c'était pas un choix, c'était que je puisse. Enfin, il y avait des problèmes familiales, c'était un mariage, etc. Et moi, j'étais encore jeune, du coup, je voyais que je puisse faire plus de ma vie. Donc, on peut dire que j'ai fouillé de là-bas.
Non, mais ça, j'entends, mais le. Vous savez, je crois que. Enfin. Objectivement, tout le monde a une bonne raison quand on décide de quitter un pays, de quitter sa famille. On le fait jamais de gaieté de cœur. Ouais, moi, je connais personne là qui souhaite galérer dans un autre pays et abandonner toute sa famille. Donc, quand on en est là, c'est qu'effectivement, vous avez probablement de bonnes raisons. Ouais, c'est pas ça, moi, que je critique. La difficulté, c'est que cet aspect-là n'est pas forcément pris en considération, voire pas du tout. Par la préfecture. Vous voyez, cette histoire de mariage forcé ou pas, alors d'abord, il faut l'établir et il faut le prouver, et puis oui, les autorités françaises sont pas forcément sensibles à ça. Même si vous êtes persuadé de la réalité de la chose. Le plus difficile, c'est pas d'être soi-même persuadé, c'est d'essayer de persuader les autres. Donc, voilà, moi, je suis pas surpris par la décision de refus qui vous a été notifiée. L'inverse aurait pu me surprendre. Si vous avez dit oui, écoutez, il n'y a pas de problème, là, j'aurais été surpris. Mais de ce que vous me dites là, le fait de dire, attendez, au pays, voilà, on allait me forcer à me marier, ou, bah oui, on va dire d'accord, mais est-ce que vous pouvez l'établir? Est-ce que vous pouvez le prouver?
Oui, bien sûr. J'ai des témoins, j'ai des lettres.
Alors, non, mais même chose, c'est-à-dire que voyez, si vous avez écouté l'émission dès le début, ces histoires d'attestation valent ce que moi j'ai envie de leur donner comme valeur. Et les autorités françaises, quand on leur raconte des histoires de cette nature, qui parfois sont de véritables histoires et de véritables souffrances, eh ben les autorités françaises, et en particulier préfectorales, sont pas hyper sensibles à tout ça.
D'accord.
Donc, ça vaudrait le coup, après, encore une fois, hein, de contester. Et puis, vous aurez un autre interlocuteur, ce sera un magistrat. Mais c'est vrai qu'à l'égard de la préfecture, je me fais pas beaucoup d'illusions sur les premiers titres qui sont délivrés. Très souvent, on vous dit non. Et puis, celui qui est pas content, eh ben, en définitive, il a qu'à contester. C'est souvent le raisonnement, hein, de ces administrations.
D'accord.
Voilà, mais faut pas baisser les bras, encore une fois. Voilà, ça veut pas dire que votre histoire tient pas la route, ça veut dire qu'il va falloir toquer à une autre porte, et dans ce cas-là, toquer à la porte du tribunal administratif.
D'accord, ben je vous remercie.
Merci Chirac, pour votre appel.
Je vous souhaite une bonne journée. Au
merci, au revoir. Alors, on a 4 minutes, on va essayer de prendre Boilem rapidement. Boilem, bonjour, et bienvenue sur Beurre FM.
Et bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Boilem. Alors on a peu de temps Boilem, hein. On a 4 minutes, si vous voulez poser votre question à Maître Serran, allez-y.
Juste deux petites questions vite fait. En fait, Maître, moi je suis marié divorcé, j'ai que 2 enfants, et donc je paye la pension normale depuis qu'on est divorcé. Et en plus, ce que je voulais dire, là, elle est toujours mariée, mon ex il est marié, est-ce que je paye toujours la pension?
Alors, il faut continuer de payer la pension tant qu'il n'y a pas une nouvelle décision de justice. Par contre, le fait qu'elle soit mariée et peut-être que monsieur travaille, vous pouvez ressaisir le juge aux affaires familiales, donc c'est d'accord. Le tribunal du domicile de madame, puisque c'est d'accord. En fonction des enfants, et puis madame devra apporter les éléments, c'est un élément nouveau de dire qu'elle s'est remariée, donc elle devra justifier de ça, et puis il faudra éventuellement que le magistrat l'interroge sur le fait de savoir que fait le nouveau mari de madame, et s'il bosse, s'il y a un salaire, évidemment que le juge prend ça en considération.
D'accord, même elle, normalement, elle travaille.
Et elle travaillait pas auparavant ?
Apparemment, on ne travaillait pas quand on est divorcé.
D'accord.
Là, ça fait plus d'un an que je
paye. Bon, donc ça fait deux salaires supplémentaires. Non, il y a une règle en la matière, hein. Toutes les décisions de cette nature sont toujours, par définition, provisoires. Dès qu'il y a un élément nouveau. Là, le fait que madame travaille, c'est un élément nouveau. Elle est mariée avec une autre personne qui travaille. Deuxième élément nouveau. Vous pouvez ressaisir le magistrat, et il est certain que vous allez présenter vos fiches de paye, mais en face, il y aura les fiches de paye de madame, les fiches de paye de monsieur, et les charges des uns et des autres. Donc le magistrat peut soit diminuer la pension que vous versez aux enfants, soit même considérer que ça n'a plus lieu d'être. C'est aussi tout à fait possible. Mais il faut ressaisir le juge aux affaires familiales.
Ok. Juste une deuxième question, on va pas tarder. Maître, en fait, est-ce qu'il y a une possibilité que... Bon, en fait, moi, là, je suis remarié encore et j'ai 2 enfants avec la deuxième femme. Est-ce que je peux récupérer mes premiers enfants?
Alors, il n'y a rien qui vous interdit de demander la garde, en tout cas la résidence des enfants. Maintenant, le magistrat va prendre ça en considération. Depuis combien de temps les enfants sont restés avec leur mère? Est-ce que ça va pas les perturber? Là, c'est déjà un peu plus compliqué, hein.
Mais c'est possible.
Ah non, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Non, mais même chose, c'est le même magistrat, vous lui poserez également la question, enfin, ou votre avocat.
Bien, voilà Boilem. Maître Serran, rappelez s'il vous plaît votre numéro de téléphone pour tous ceux qui n'ont pas réussi à vous joindre ce matin.
Ouais, alors je suis joignable au 06 62 58 59 64 et 06 62 58 59 64.
Tout sans mais joignable, en fait.
Absolument.
On peut vous joindre.
Voilà, donc je pourrais répondre en tout sans. Ça peut être désagréable, mais
ça veut dire que ça n'impacte pas vos capacités intellectuelles.
Absolument. Et donc tous les matins, je sors torse nu.
Voilà. Mais plus à partir de maintenant, vous allez vous couvrir. Donc votre voisine va déménager. Maître Serran, on vous retrouve vendredi.
Avec plaisir.
Merci d'avoir été avec nous.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, tout est nettoyé. Tout est nettoyé.
Ouais, ça y est, on reprend.
Vous avez enlevé le chocolat sur votre pull.
C'est bon. Ouais.
Très bien. Et Maître Serran va donc répondre à vos questions immédiatement au 01-53-48-3000. Direction Marseille, Maître Serran. Et c'est Bachir qui vous appelle. Bachir, bonjour et bienvenue.
Bonjour, vous m'entendez?
Très bien, Bachir.
Bonjour, bonjour Maître. Bonjour,
bonjour Bachir.
Je me permets de vous appeler. J'ai tout de suite essayé de. Dès que j'ai entendu ce sujet de sur le divorce.
L'attestation, là.
Exactement. J'ai tout de suite pris mon téléphone pour vous appeler parce que je voulais vous faire partager une expérience nauséabonde me concernant. Nous sommes actuellement, il y a un sujet qui préoccupe tout le monde. Moi, le premier sur les féminicides. Et dans ce contexte-là, on oublie les hommes qui sont en souffrance, qui sont des hommes battus, et dans des situations où la femme a totalement pris le dessus juridiquement. Pour vous expliquer un petit peu, je suis un peu ému parce que ça me touche profondément, parce que je subis une injustice qui est totale. Je suis marié depuis 9 ans et mon épouse demande le divorce en arguant que je suis violent, que je suis violent auprès de mes enfants, et je lui ai fait des menaces de mort. Et face à la justice et face à la police, c'est un rouleau compresseur, et j'ai été entendu par la gendarmerie, et c'était à charge, j'étais accablé, et je n'ai aucune preuve, en fait, alors que madame a construit des preuves depuis plusieurs années derrière mon dos. Elle dormait à côté de moi. Mais là aujourd'hui, lors de la déposition, elle a eu apparemment des traces de violence qu'elle a fait constater chez le médecin. Mais en aucun cas je l'ai frappé. Et moi, ma question, c'est comment prouver que je ne suis pas violent, puisque elle. Et je l'ai entendu maintes fois discuter avec sa famille, parce que c'est il faut le contexte familial de cette femme, c'est une famille qui est violente. Ses frères et sœurs ont divorcé deux fois, ils ont des enfants de deux maris différents, de deux épouses différentes. Et là, je me retrouve démuni, puisque vous savez, les hommes, beaucoup d'hommes sont en souffrance, idéalisent le mariage, idéalisent leur épouse. C'est une honte. On ne parle pas de cela à nos parents, de peur qu'il soit blessé, déçu de votre épouse. J'ai subi des violences depuis des années et je me suis toujours tu. Ça commence par des insultes, des rabaissements, de la vaisselle cassée, des ustensiles. Elle me frappait avec des ustensiles sur moi devant les enfants. Et là maintenant, elle utilise les enfants comme une arme contre moi. Et voilà. Et moi, c'est une machine qui broie. Je suis le coupable. Et madame, elle a très bien joué le coup. Elle a bien construit ses preuves pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et là, je me retrouve le bec à l'eau parce que elle m'a toujours dit depuis le début, si on a des problèmes dans le couple, il faut en parler à personne. C'est ce que j'ai fait. C'était une honte pour moi aussi de parler autour de moi que je subissais des violences. Et là,
mais monsieur, quand vous dites des violences, ce sont quoi? Des violences physiques, morales, passant temps à vous insulter, c'est quel type de violence?
C'est des violences morales, avec des insultes, je ne vous les citerai pas. C'est l'homme qui doit tout payer, donc j'étais accablé de payer toutes les factures. Des violences physiques, des clés, elle prenait les clés de la maison, elle me frappait sur les côtes, elle prenait des ustensiles, elle me frappait avec sa bague de fiançailles sur le nez, j'avais des marques et des bleus. Et moi, je n'ai jamais fait constater cela. C'est une erreur.
Ouais.
Mais parce que je l'aimais, c'était une honte aussi, vous voyez.
Je vois pas, mais bon, je comprends la notion. Quand vous me dites je l'aimais, à partir du moment où vous mettez des droites dans le nez, moi je veux bien, vous voyez. L'amour a aussi ses limites. Qui a engagé la procédure? C'est vous, c'est madame?
Non, c'est madame.
D'accord. Alors, il y a une règle quand même hein, en la matière. Donc là, on évoquait les attestations de complaisance. Il faut savoir que
là, il y a le médecin qui a fait une attestation, maître voilà. Charan, de complaisance.
Donc, c'est vrai que on a ce genre de difficulté parfois parce que lorsque, alors, on va prendre le cas de madame, et je ne veux pas me focaliser sur madame. On voit aussi l'inverse du côté parfois des hommes. Mais lorsque madame va au commissariat pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé. J'ai été violentée. J'ai une trace au visage. En tout cas, une trace sur le corps, donc on va ensuite faire constater ça par les UMJ, hein, les unités médico-judiciaires, donc ce sont entre guillemets les médecins assermentés et médecins officiels pour ce genre de procédure. Donc il est certain que en principe, le médecin, il n'est pas là pour dire qui peut être à l'origine d'eux. Il est là pour constater est-ce qu'il y a des ecchymoses, est-ce qu'il y a des rougeurs, est-ce qu'il y a des griffures. Enfin voilà, mais en principe, le médecin n'est pas là pour dire c'est monsieur qui a ou qui aurait fait ça. Il précise très souvent madame me dit que c'est monsieur. Donc c'est toujours problématique parce qu'il est certain que ce genre d'attestation et par rapport à l'attestation d'un voisin, sont des attestations qui pèsent lourd. Et la règle en la matière, c'est que il y a un postulat, on ne peut pas prouver sa bonne foi. La bonne foi est présupposée. C'est à madame de prouver que. Mais il y a une sorte de renversement de la charge de la preuve, comme on dit en droit. Et on a souvent, effectivement, monsieur qui est mis, entre guillemets, au banc des accusés. Alors certains nous disent, mais attendez, je comprends pas, j'ai jamais porté la main sur madame, donc je suis pas fou et je suis pas dupe. Je veux dire, statistiquement, il y a peut-être des hommes qui ont été jusqu'au bout de cet acte de violence, mais moi je pars du principe qu'on peut pas considérer que sous prétexte d'être un homme de facto, on est violent. Et parfois, vous arrivez effectivement devant des juridictions, on nous dit non, mais attendez, il y a un médecin qui atteste que. Et ça devient très difficile d'essayer de faire comprendre aux magistrats que peut-être, non pas que le médecin a menti, quand il constate des choses, il les constate, mais peut-être que c'est la personne qui se dit victime qui a été, entre guillemets, plus maligne, qui a essayé de manipuler alors et le médecin
exactement,
des UMJ et la justice. Et c'est vrai, là, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un décalage entre la parole portée par les femmes et les conjoints ou concubins et autres, avec le climat actuel aussi, hein, évidemment, voilà. Donc il ne s'agit pas de dire que les violences à l'égard des femmes n'existent pas, ce serait stupide de le dire, et j'ai reçu d'ailleurs une personne il n'y a pas si longtemps que ça, qui portait encore des traces sur le visage, mais c'est à l'institution elle-même, l'institution judiciaire, l'institution policière, de faire attention à ça et de pas simplement... se dire, bah tiens, il y a cette femme qui vient ou qui pleure, donc forcément tout ce qu'elle me dit, de facto, est vrai. Donc faut faire attention à la tendance inverse. Pendant très longtemps, les femmes se sont plaintes, et puis l'institution policière, judiciaire, ne faisait pas attention et fermait les yeux, donc en disant, attendez, c'est une histoire de couple, débrouillez-vous entre vous. Donc il y a une véritable injustice à l'égard de ces femmes réellement violentées. Et puis le retour de bâton, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'à on a l'impression qu'il suffit que madame lève le doigt pour que monsieur puisse recevoir un coup de gourdin sur la tête. Là, vous en êtes où au stade de votre procédure, monsieur ?
Là, écoutez, là, je suis donc sous contrôle judiciaire. Donc,
ah d'accord, alors, mais il y a eu un aspect pénal du dossier ou pas ?
Oui, exactement.
D'accord.
Je dois me présenter.
Ouais, vous devez pointer régulièrement.
Ouais. Ouais, ça c'est je ne peux pas voir mes enfants, ça c'est je suis hors du domicile, donc j'ai pris un appartement, je dois payer un devoir de secours.
Ouais, enfin vous avez pioché que les mauvaises cartes. Donc la difficulté quand on y a l'aspect pénal d'un dossier, donc voilà, vous avez la procédure de divorce, l'aspect civil, et puis quand une plainte est déposée contre l'intéressé, que vous êtes convoqué devant un tribunal correctionnel et qu'un tribunal vous condamne, et puis ou alors quand vous êtes placé sous contrôle judiciaire, il est certain que le juge du divorce, le juge civil, va quand même être fortement influencé par cette décision. Donc après, c'est quand même très difficile, sincèrement, je veux pas dire impossible, mais en tout cas très très difficile et compliqué, d'essayer d'établir devant le juge du divorce que ce sont des mensonges et que voilà, monsieur n'est pas responsable d'eux. Bah pourquoi ? Parce qu'en face, on va vous dire, attendez, moi j'ai une décision rendue par la justice pénale qui dit que monsieur a été condamné ou qui dit que... Donc le juge civil, il est très 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 fortement influencé par ça. Donc c'est vrai que voilà, dans ce genre de situation, en tout cas pour la vôtre, ça part très mal pour le résultat final du divorce qui a priori voilà, ne donnera pas lieu à surprise.
Non, non, mais ça, je n'en doute pas. Mais après, c'est juste les conséquences pénales.
Bah ouais.
La situation de mes enfants. Là, j'étais du jour au lendemain, je ne peux plus rentrer chez moi. Donc, mes affaires, mes téléphones, mes preuves. Enfin voilà, je n'ai rien pour prouver que c'est totalement faux.
Ouais.
D'autant plus qu'il y a une manipulation des enfants. Vous savez, les enfants. J'ai deux petits garçons. Avec ce principe de loyauté qu'ils ont avec leur mère, c'est tout à fait légitime. Mais moi je suis accablé, je n'ai rien pour prouver ma bonne foi.
C'est ce que je vous disais. La règle étant que je n'ai pas à prouver ma bonne foi, c'est à la partie adverse de prouver que. Mais ce qui m'ennuie, c'est l'aspect pénal du dossier, monsieur. Encore une fois, bon, je connais pas le dossier, je peux pas dire, il y a des éléments qui étaient, voilà. Mais c'est cet aspect-là, vous, à partir du moment où vous avez déjà comparu, où vous avez déjà été condamné par un tribunal correctionnel, ça me semble très difficile d'inverser la tendance devant un juge civil. Franchement.
La Bachir, on est obligé de s'arrêter puisqu'il y a une page de pub qui arrive. Vous pouvez continuer la conversation avec Maître Serran d'ailleurs. Hein, Maître Serran, s'il vous plaît, votre numéro de téléphone, si vous avez la gentillesse de nous le donner.
J'ai la gentillesse et je vais arrêter de tousser. Je vais faire en sorte que 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, Bachir.
Cours, en tout cas, et. En espérant que ces prochains mois, ça va se décanter un peu.
Écoutez, je vous le souhaite. Bon courage à vous, Bachir.
Merci beaucoup. Excellente journée à vous.
Merci d'avoir témoigné sur Beurre FM hein, et de votre confiance, Bachir. D'autres appels dans un instant. Vous avez une question à poser à Maître Serran. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui couvre un petit rhume. Hein, Maître Serran. Oh là là,
ouais,
hein, même un gros rhume.
Hein. Ouais, non, petit.
Faut vous couvrir, Maître Serran.
J'aime bien me balader torse nu quand je sors de chez moi dès le matin.
Oui, ça. Ouais. Bon, alors c'est peut-être pas la bonne idée, Maître Serran.
Je sais bien.
C'est-à-dire qu'à partir, on va dire qu'à partir du 15 octobre,
faut éviter. C'est vrai.
Hein.
Ah ouais. Bon. Et je vous dis pas ce qui se passe en été, mais
non,
je le dis pas.
Vous nous direz cet été,
par exemple.
Très bien. Alors, en attendant, il y a Ishrak qui nous appelle de Lyon. Ishrak, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Ishrak.
Une cousine à moi, elle m'a dit que on pourra parler avec un avocat.
Eh ben, l'avocat vous écoute.
Et eh ben là, je suis une étudiante dans une université de Lyon.
Oui.
Et je suis algérienne je suis de nationalité algérienne.
Une grande qualité. Voilà, et c'est mon côté nationaliste hein, qui voilà. Bah, allez-y, excusez-moi.
Et je suis venue à l'âge de 17 ans ici en France.
Ouais.
Avec une visa touristique.
Et là, vous avez quel âge ?
Là, bientôt, je vais avoir mes 22.
D'accord. Donc, c'est un visa touristique très long. Vous êtes maintenu après le visa, on va être clair.
Ah, il a été craqué, le visa. Voilà.
Ouais, c'est bon. Le visa, il était dû.
Je l'imagine.
90.
D'accord.
Enfin, 90 jours. Et du coup, là, j'avais des problèmes familiaux. Du coup, j'ai réussi à intégrer dans un lycée.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait mon bac S et là, je suis à la fac. J'ai fait un dossier à la préfecture. Le 21 novembre, j'ai reçu un rejet.
Ouais.
Sur mon dossier. C'était vie familiale et privée.
D'accord. Donc là, vous l'avez reçu quand ? Ça vous a été notifié quand ?
J'ai reçu chez moi, c'était le 23 novembre.
D'accord. Bon, J'imagine que vous avez lu ce qui vous restait à faire, c'est-à-dire à, par définition à contester.
Ça me demande un recours.
Ouais. Ouais, il y a un recours. Alors, soit vous faites un recours gracieux, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites au préfet, écoutez, réexaminez ma situation, mais sincèrement, la probabilité pour que les autorités préfectorales reviennent sur leur décision, elle est infinitésimale. Il n'y a rien qui vous interdirait de faire un recours hiérarchique, c'est-à-dire en vous adressant au patron du préfet, au ministre. Là aussi, bon, moi, je suis pas friand de ce type de recours. Le seul est vrai, entre guillemets, recours, selon moi, mais ça n'engage que moi, c'est le recours contentieux, c'est-à-dire saisir le tribunal administratif et puis mettre en avant tous les arguments que vous pourrez apporter. Mais là, on vous dit quoi précisément? Est-ce qu'on répond sur votre activité estudiantine ou pas? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ben, il me dit qu'il y a un rejet sur votre dossier, il n'y a pas un QTF.
Alors ça, d'accord, mais normalement, il doit y avoir une ou deux lignes de motivation, c'est-à-dire qu'on vous dit, écoutez, votre situation, c'est ça, vous nous avez demandé ça, on ne veut pas parce que, et donc retourner au pays. Là, le motif, la raison qu'ils invoquent, qu'est-ce qu'on vous dit?
On ne peut pas parce que vous n'avez pas un lien familial, et du coup, moi, j'avais bien écrit que, enfin, ici en France, sachant que j'ai ma sœur ici, et j'avais bien écrit que quand je suis venue de là-bas, il y avait des problèmes qui m'empêchent que je puisse faire mes études là-bas.
Ouais, mais alors, d'abord, il y a un préalable en la matière, c'est toujours difficile d'essayer d'être régularisé quand on arrive avec tel ou tel type de visa. Je viens en qualité de touriste, donc normalement, à l'expiration, en tout cas avant l'expiration de mon visa, je retourne au pays. Alors, il n'y a rien qui interdit hein, de changer de statut juridique. Enfin, voilà, quelqu'un qui se marierait, s'il y a des enfants, éventuellement demander un statut d'étudiant, mais ça devient déjà un peu plus difficile. La France a l'impression que vous l'avez trahi. Je suis la France, je vous donne un visa en qualité de touriste. C'est pas pour que demain on me dise bah écoutez je suis ici bah je vais rester pour des études ou je vais me marier ou je vais avoir des enfants. Donc
ah oui mais voilà, je suis tout à fait d'accord, mais le problème que j'avais là-bas que je pouvais pas faire mes études et moi je voyais loin que je puisse enfin je voyais que j'ai la capacité de faire
j'entends bien et d'ailleurs de votre parcours et de votre bac, je comprends que voilà, vous avez les capacités pour autant, vous voyez, si cette argumentation avait été donnée auprès des autorités préfectorales, mais je suis pas fou, ils vous auraient refusé en disant, écoutez, j'ai des capacités, je vais aller faire des études en France, entre guillemets, voilà, on est sur un plan d'égalité, vous me dites la vérité, après j'accepte ou j'accepte pas, mais votre argument, je le comprends, mais il est pas audible pour l'administration. Bon, toujours est-il que de toute manière, on vous a invité à quitter le territoire, ils vous ont accordé 30 jours pour saisir le tribunal, j'imagine.
Non, 2 mois, ils m'ont pas demandé de quitter le territoire.
Ah bon, alors écoutez, donc ils vous ont répondu sur quoi? Ils vous ont simplement dit on refuse le titre vie privée familiale.
Le premier article, c'était qu'on refuse le titre de la vie privée familiale.
Et excusez-moi, j'ai pas entendu, j'arrête pas de tousser là, pardon.
Je vous ai dit que le premier article, c'était qu'on refuse le titre de séjour familial.
Ouais.
Et le deuxième article, c'était que mon récépissé, il est plus, enfin, on pourra plus les suivre.
D'accord.
Il y a juste de ça.
Bon, l'aspect familial, alors je comprends bien, je crois que vous avez une sœur, c'est ce que vous m'avez dit?
Oui, c'est bien.
D'accord. Et le reste de la famille?
Bah, le reste de
son pays?
Oui.
Bon, le calcul, entre guillemets, des autorités préfectorales est assez simple. C'est-à-dire que, déjà, quand tous les membres de la famille sont au pays, c'est-à-dire on a souvent des clients qui sont tout seuls en Algérie, enfin au Maroc ou ailleurs, c'est pas simple en disant, attendez, la personne est seule et toute la famille est en France, autoriser la personne à résider sur le territoire français. Là, il est certain que si la grande majorité des membres de votre famille est au pays, madame, l'argumentation qui consiste à demander un titre vie privée familiale est difficile à soutenir. Vous voyez, le fait qu'il y ait un ou même deux membres de la famille sur le territoire français, ça n'équilibre pas la situation. On va considérer que vous avez plus de membres et donc plus d'intérêts en Algérie que sur le territoire français. Pour autant, rien vous interdit évidemment de contester, et puis il va falloir le faire. Là, au niveau des études, il se passe quoi? Vous êtes quoi, en quelle année?
Là, je suis en licence physique chimie d'ingénieur.
D'accord. Au niveau de l'inscription à l'université, ils vous ont pas cherché des poules dans la tête? Il n'y a pas eu de difficulté?
Non, il n'y a pas de difficulté, parce que je suis passée par le Parcoursup.
D'accord. Bon, c'est tant mieux, parce que parfois, ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire et des tracasseries administratives. Bon, encore une fois, l'angle d'attaque sur l'aspect familial vous concernant me semble, moi, un peu tiré par les cheveux. Mais bon, vous les avez interpellés sur ce point-là, ils vous ont refusé, donc il faudrait quand même envisager de contester cette décision, donc auprès du tribunal administratif.
D'accord. Parce que comme là, ici, c'était pas un choix, c'était que je puisse. Enfin, il y avait des problèmes familiales. C'était un mariage, etc. Et moi, j'étais encore jeune. Du coup, je voyais que je puisse faire plus de ma vie. Du coup, on peut dire que j'ai fouillé de là-bas.
Non, mais ça j'entends. Mais le vous savez, je crois que enfin. Objectivement, tout le monde a une bonne raison quand on décide de quitter un pays, de quitter sa famille. On le fait jamais de gaieté de cœur. Ouais, moi, je connais personne là qui souhaite galérer dans un autre pays et abandonner toute sa famille. Donc, quand on en est là, c'est qu'effectivement, vous avez probablement de bonnes raisons. Ouais, c'est pas ça, moi, que je critique. La difficulté, c'est que cet aspect-là n'est pas forcément pris en considération, voire pas du tout, par la préfecture. Vous voyez, cette histoire de mariage forcé ou pas, alors d'abord, il faut l'établir et il faut le prouver, et puis oui, les autorités françaises sont pas forcément sensibles à ça. Même si vous êtes persuadé de la réalité de la chose. Le plus difficile, c'est pas d'être soi-même persuadé, c'est d'essayer de persuader les autres. Donc, voilà, moi, je suis pas surpris par la décision de refus qui vous a été notifiée. L'inverse aurait pu me surprendre. Si vous avez dit oui, écoutez, il n'y a pas de problème, là, j'aurais été surpris. Mais de ce que vous me dites là, le fait de dire, attendez, au pays, voilà, on allait me forcer à me marier, ou, bah oui, on va dire d'accord, mais est-ce que vous pouvez l'établir? Est-ce que vous pouvez le prouver?
Oui, bien sûr. J'ai des témoins, j'ai des lettres.
Alors, non, mais même chose, c'est-à-dire que, vous voyez, si vous avez écouté l'émission dès le début, ces histoires d'attestation valent ce que moi j'ai envie de leur donner comme valeur. Et les autorités françaises, quand on leur raconte des histoires de cette nature, qui parfois sont de véritables histoires et de véritables souffrances, eh ben les autorités françaises, et en particulier préfectorales, sont pas hyper sensibles à tout ça.
D'accord.
Donc, ça vaudrait le coup, après, encore une fois, hein, de contester. Et puis, vous aurez un autre interlocuteur, ce sera un magistrat. Mais c'est vrai qu'à l'égard de la préfecture, je me fais pas beaucoup d'illusions sur les premiers titres qui sont délivrés. Très souvent, on vous dit non. Et puis, celui qui est pas content, eh ben, en définitive, il a qu'à contester. C'est souvent le raisonnement, hein, de ces administrations.
D'accord.
Voilà, mais faut pas baisser les bras, encore une fois. Voilà, ça veut pas dire que votre histoire tient pas la route, ça veut dire qu'il va falloir toquer à une autre porte, et dans ce cas-là, toquer à la porte du tribunal administratif.
D'accord, ben je vous remercie.
Merci Chirac pour votre appel.
Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir. Alors, on a 4 minutes, on va essayer de prendre Boualem rapidement. Boualem, bonjour, et bienvenue sur Beurre FM.
Et bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Boualem. Alors on a peu de temps Boualem, hein. On a 4 minutes, si vous voulez poser votre question à Maître Serran, allez-y.
Juste deux petites questions vite fait. En fait, Maître, moi je suis marié divorcé, j'ai que 2 enfants, et donc je paye la pension normale depuis qu'on est divorcé. Et en plus, ce que je voulais dire, là, elle est toujours mariée, mon ex il est marié, est-ce que je paye toujours la pension?
Alors, il faut continuer de payer la pension tant qu'il n'y a pas une nouvelle décision de justice. Par contre, le fait qu'elle soit mariée et peut-être que monsieur travaille, vous pouvez ressaisir le juge aux affaires familiales, donc c'est D'accord. Le tribunal du domicile de madame, puisque c'est D'accord. En fonction des enfants, et puis madame devra apporter les éléments, c'est un élément nouveau de dire qu'elle s'est remariée, donc elle devra justifier de ça, et puis il faudra éventuellement que le magistrat l'interroge sur le fait de savoir que fait le nouveau mari de madame, et s'il bosse, s'il y a un salaire, évidemment que le juge prend ça en considération.
D'accord, Même elle, normalement, elle travaille.
Et elle ne travaillait pas auparavant ?
Apparemment, elle ne travaillait pas quand on est divorcé.
D'accord.
Là, ça fait plus d'un an que je
paye. Bon, donc ça fait deux salaires supplémentaires. Non, il y a une règle en la matière. Hein. Toutes les décisions de cette nature sont toujours, par définition, provisoires. Dès qu'il y a un élément nouveau. Là, le fait que madame travaille, c'est un élément nouveau. Elle est mariée avec une autre personne qui travaille. Deuxième élément nouveau. Vous pouvez ressaisir le magistrat, et il est certain que vous allez présenter vos fiches de paye, mais en face, il y aura les fiches de paye de madame, les fiches de paye de monsieur, et les charges des uns et des autres. Donc le magistrat peut soit diminuer la pension que vous versez aux enfants, soit même considérer que ça n'a plus lieu d'être. C'est aussi tout à fait possible. Mais il faut ressaisir le juge aux affaires familiales.
Ok. Juste une deuxième question, on va pas tarder. Maître, en fait, est-ce qu'il y a une possibilité que... Bon, en fait, moi, là, je suis remarié encore et j'ai deux enfants avec la deuxième femme. Est-ce que je peux récupérer mes premiers enfants ?
Alors, il n'y a rien qui vous interdit de demander la garde, en tout cas la résidence des enfants. Maintenant, le magistrat va prendre ça en considération. Depuis combien de temps les enfants sont restés avec leur mère ? Est-ce que ça ne va pas les perturber ? Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Hein.
Mais c'est possible.
Ah non, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Non, mais même chose, c'est le même magistrat, vous lui poserez également la question, enfin, ou votre avocat.
Bien, voilà Boualem. Maître Serran, rappelez s'il vous plaît votre numéro de téléphone pour tous ceux qui n'ont pas réussi à vous joindre ce matin.
Ouais, alors je suis joignable au 06 62 58 59 64 et 06 62 58 59 64.
Tout sans mais joignable, en fait.
Absolument.
On peut vous joindre.
Voilà, donc je pourrais répondre en tout sans. Ça peut être désagréable, mais
ça veut dire que ça n'impacte pas vos capacités intellectuelles.
Absolument. Et donc tous les matins, je sors torse nu.
Voilà. Mais plus à partir de maintenant, vous allez vous couvrir. Donc votre voisine va déménager. Maître Serran, on vous retrouve vendredi.
Avec plaisir.
Merci d'avoir été avec nous.